Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous nous écoutez à Yamfouila à travers la radio Kousson 107.fm. Auditeurs et auditrices, bonsoir. Voici les grandes lignes de cette édition. Affaire EDMSA, le syndicat répond au ministre, aux accusations du ministre et demande que lumière soit faite. C'est parti pour la campagne du Hadj 2024. Les activités ont été lancées ce jeudi à la maison du Hadj à Bamako. Cette année, le quota octroyé au Mali est de plus de 13 000 pèlerins. La fête culturelle Dogon Sigui, désormais reconnue comme patrimoine culturel national au Mali, une fierté pour la communauté Dogon du Mali qui célèbre cet événement tous les 60 ans. À la présentation de ce journal, Juliette Koulibaly, Philly Dambélé assure la mise en onde. Le syndicat de l'énergie du Mali SA répond à la ministre de l'énergie et de l'eau. Dans une interview sur le plateau de l'ORTM mardi dernier, celle-ci accusait la société de gestion mafieuse et de détournement. Les responsables du syndicat demandent que des preuves soient apportées à ces accusations et que les coupables soient punis. Plus de détails avec Sita Sidi B.
Des preuves, c'est ce que demande le syndicat des travailleurs de l'EDMSA. Une fois la culpabilité des travailleurs impliqués dans cette affaire établie, le syndicat souhaite que la justice sévisse. Abba Soufiane Diallo, secrétaire général du SNACOM de Bamako.
Tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous apporte les preuves. Et tout agent impliqué dans une situation similaire, que ces agents-là soient châtiés à hauteur du souhait par la justice et qu'ils servent d'exemple aux autres. Il y a deux semaines de cela, nous avons déjà entamé des tournées de sensibilisation de nos collègues, pour leur faire comprendre comme quoi on parle du Malikoura que chacun change.
Pour les syndicats, les autorités doivent s'investir à hauteur de soi pour l'EDM. Seule solution pour la crise énergétique. Selon Babardao, secrétaire général du comité syndical national du SINACOM, syndicat national des constitutions civiles des mines et de l'énergie.
Je l'ai dit dans mes propos, la solution aujourd'hui de l'électricité, c'est l'investissement. L'investissement, c'est l'État qui doit investir comme les autres pays l'ont fait pour pouvoir sortir de la crise énergétique. Tant que l'État n'investisse pas, ce n'est pas possible. Déjà, la société énergie du Mali est endettée. Je dis bien à plus de 500 milliards de dettes.
Les syndicalistes disent regretter de voir leurs images et celles de tous les personnels de l'EDM ternir après des propos tenus par Madame la ministre à leur égard.
Réagissez à toutes ces informations sur la page Facebook ou compte Twitter de Studio Tamani. L'armée malienne affirme avoir déjoué plusieurs attaques terroristes mercredi dernier. Au même moment, des civils ont été pris pour cible par des bandits armés dans les régions de Menaka et Gao. Fatih Yatara nous en dit plus.
À Kassiga, dans le cercle d'Ansongo, trois civils ont été blessés hier dans une attaque perpétrée contre les contingents nigériens de la MINUSMA. Toujours au nord du pays, l'armée malienne affirme avoir déjoué des attaques terroristes contre les FAMA à Gao et à Nefis à Kidal ce mercredi. Selon les communiqués de l'armée malienne, les frappes aériennes menées par les FAMA ont permis de détruire des colonnes de véhicules de groupes terroristes. Au cours de cette opération, de nombreux assaillants ont été neutralisés, ajoutent les documents. Les FAMA affirment que des opérations des ratissages ont commencé depuis quelques jours au centre du pays. Ces opérations ont concerné beaucoup de localités de Nampala, cercle de Nyono. Ces ratissages ont permis de mettre hors d'état de nuire plusieurs groupes terroristes d'Acmi et Jinim, selon l'armée malienne. Par ailleurs, le 18 octobre dernier, selon des sources locales, au moins 4 personnes ont été tuées par des individus armés à Isgaret, dans le cercle de Toredmen, région de Menaka.
Je vous le disais dans le sommaire, les préparatifs du Hadj 2024 ont été lancés hier à la maison du Hadj. 13 400 pèlerins, c'est le quota octroyé au Mali par les autorités saoudiennes. Selon les responsables de la maison du Hadj, contrairement aux années précédentes, les travaux d'organisation ont débuté en amont. Un reportage signé Korotou Moussanga.
En effet, les travaux de l'organisation du Hadj ont été anticipés cette année pour diverses raisons. Selon Dr Abdoul Fattah Cissé, directeur général de la maison du Hadj, cette initiative est due à un changement du chronogramme entrepris par les autorités saoudiennes.
Cette année, les travaux doivent être finis à partir du mois de mars 2024. On doit finir avec l'inscription de l'ensemble de nos pèlerins et commencer la programmation des vols. On doit finir 2 mois et 15 jours avant le premier départ pour le Hadj.
Les agences de voyage accueillent favorablement apprend cette nouvelle. Pour Mme Cissé Fatoumata Kouyaté, présidente de l'Association malienne des agences de voyage et du tourisme, cet agenda permettra aux pèlerins d'éviter les retards.
Les Maliens ne commencent à penser au Hajj qu'après, en réalité, le Ramadan. Ça pénalise beaucoup. L'activité elle-même, ça nous pénalise, nous, organisateurs du Hajj. Nous avons eu une forte doléance à l'endroit de la maison du Hajj de Dresde, afin que les choses commencent très tôt.
Selon les responsables de la maison du Hajj, le coût du Hajj 2024 et le quota attribué aux agences seront connus après examen minutieux des listes de candidatures. Cette opération va concerner plus de 500 agences de voyage privées.
C'était un reportage signé Korotou Moussa Maké. Autre actualité de cette édition, le Sigui est reconnu comme patrimoine national culturel. Cette ressource d'Ogon est célébrée chaque 60 ans. La nouvelle a été accueillie avec fierté au pays d'Ogon. Pour les traditionalistes, cette reconnaissance va contribuer à perpétrer la mémoire d'Ogon. À cet effet, la rédaction s'est intéressée au Sigui. Qu'est-ce qu'il représente? Quel est l'impact de cette reconnaissance? Les détails dans ce reportage de Zainabou Doumbia avec la voix de Fadi Talfi Maïga.
Le Sigui est un événement grandiose chez les Dokon, célébré à plus de chaque demi-siècle. Abdoulaye Guindo, traditionnaliste Dokon à Bankass, revient sur les origines du Sigui.
Le premier Sigui a été organisé lors de la découverte par les vieux Dokon d'une étoile qu'on appelle Sirius, d'où on parle même du Sigui-so, le langage du Sigui. Seuls les initiés le parlent. Donc, cette organisation a été faite et ça a coûté beaucoup, ça a mobilisé beaucoup de gens. Donc ils ont dit que bon voilà, on va quand même perpétuer cet événement-là et on l'organise pendant chaque 60 ans.
Du point de vue de Fousseyne Diakité, président du groupe Walaha, la reconnaissance du Sigui, patrimoine culturel national, va contribuer à enrichir la culture malienne.
C'est toujours une très bonne chose en fait que nos autorités reconnaissent la valeur et décident de protéger tout ce qu'on a comme richesse et patrimoine culturel.
Il n'y a même pas de doute que ce patrimoine culturel, matériel malien puisse être reconnu sur le plan mondial.
Il faut noter que la fête du Sigui a lieu tous les 60 ans. Comme la semaine d'Ogon dure 5 jours, cela correspond à peu près à un siècle d'Ogon.
Il est 18h passé de 7 minutes dans ce studio. Le dépôt des dossiers de candidature pour le recrutement au sein de l'armée malienne se poursuit. Les commissariats de police, les mairies et les tribunaux sont bondés de candidats. Cependant, ce mode de recrutement est différemment apprécié à Badjangara, Bafoulabé et Kita. Des réactions dans la rubrique On en parle, une réalisation de Adama Amadou Aïdara avec le concours de nos correspondants.
Pour fournir les dossiers partout comme ça, c'est un peu dérangement quoi. On nous met en compétition des courses et celui qui a l'état écrit.
Pour moi, la bonne manière est de voir sur le terrain la pratique qui peut différencier les différents candidats. Sur les papiers, on ne peut jamais savoir si celui-ci est apte ou bien pas.
Il n'y a pas enquête de moralité. N'importe qui peut aller déposer son dossier et on peut le recruter. Ça sera un problème dans l'armée.
Je suis de la localité de Bafoulabé. Je n'ai rien à reprocher.
Si l'engouement est grand, forcément tu vas attendre longtemps avant ton tour. Sur ce point, on ne peut rien dire. Je n'ai aucun problème avec le processus. On n'a rien sans peine.
À présent, la rétrospective de l'actualité de la semaine avec Aboubakrine Ag Mohamedine Yatara.
Commençons cette page rétro par le dépôt des dossiers pour les recrutements dans les différents corps de l'armée malienne lundi 23 octobre dernier. Les lieux de réception des dossiers à Bamako et à l'intérieur sont pris d'assaut par des postulants au concours. Ces derniers évoquent quelques difficultés à certains endroits. Autre actualité marquante, c'est la sortie de la ministre de l'Énergie et de l'Eau, Bintou Camara. Elle a expliqué les raisons fondamentales des coupures d'électricité lors d'une interview accordée à la télévision nationale. Selon la ministre, la société EDMSA fait face à des problèmes de gestion et des détournements qui annihilent les efforts du gouvernement. Elle a annoncé l'adoption d'un plan de redressement pour soulager les populations. Terminons par l'alerte donnée par le leader du groupement des personnes de petite taille aux autorités sur les difficultés liées à l'éducation des personnes de petite taille. Leur association a initié cette semaine une rencontre sur l'amélioration du sort des élèves de petite taille dans les systèmes scolaires maliens.
Sport, football, la reprise du championnat national est prévue pour le 1er novembre prochain. Cette nouvelle date est fixée par la Fédération malienne de football après plusieurs reports. Modibo Koulibaly, troisième vice-président de la FEMAFOOT, affirme que les matchs se joueront sur les terrains de certains clubs en attendant la fin des travaux de rénovation dans les stades. Et nous recevons à présent Sekou Gadjigo pour nous introduire le grand dialogue. Alors Sekou, quel est le thème qui sera abordé ce soir?
Ligue 1 Orange de football, un championnat en perte de vitesse, c'est le thème du grand dialogue de ce soir. Nos invités sont Ousmane Dao, Djelika Guindo et Abdoul Dambélé, tous des journalistes sportifs.
Merci Sekou et bon débat. Et c'est ce qui met fin à ce journal présenté par Juliette Koulibaly. Philippe Dambélé était à la technique. Vous pouvez retrouver ce journal sur l'application Studio Tamani disponible sur Play Store. Les personnes vivant avec un handicap contribuent aussi au développement économique du pays. Elles sont regroupées en associations ou en regroupements. Ces malvoyants ou non-voyants et handicapés physiques exercent des activités socio-économiques. Aujourd'hui, bien que ces personnes ont abandonné la mendicité pour travailler à la sueur de leur front. Ce numéro fait un focus sur l'apport des personnes en situation de handicap à l'économie du pays. C'est une réalisation de Moussa Malé Sissoukou.
L'Union malienne des aveugles UMAV est un centre d'insertion et d'éducation des personnes non-voyantes et malvoyantes. Ce centre est doté d'unités de production, notamment celles de fabrique de craie. Selon Hadi Bari, président de l'UMAV, une cinquantaine d'ouvriers non-voyants accompagnés d'encadreurs y travaillent. Il déplore la mévente de ces produits depuis un certain temps.
La production est énorme, qui peut produire à peu près 800 bâtonnets de craie par jour. Notre production actuelle qui se trouve dans nos magasins, malheureusement non écoulé, s'élève à une valeur marchande de près de 120 millions. Malgré la multiplicité des écoles dans le Mali, l'État n'est pas parvenu en tout cas à nous aider à faire écouler à hauteur de Suez cette quantité importante de craie au bénéfice de la population du Mali.
L'UMAV ne produit pas que de la craie. Elle fabrique aussi d'autres objets. Mais l'organisation reste confrontée à des difficultés dans ce cadre aussi. Adi Bari, président de l'UMAV.
Nous produisons également de la serpillière pour les nettoyages. Et à ce niveau, c'est vrai, on a des difficultés par rapport aux matières premières parce que nous faisons une sorte de vase communicant où l'achat de craie et l'achat de serpillière se complètent pour acheter la matière première.
Adi Bari ajoute que l'UMAV et ses partenaires ont financé des activités génératrices de revenus pour plus de 1300 personnes en situation de handicap à hauteur de 100 millions de francs CFA. Ce projet a touché cette couche dans 9 zones de la région de Koulikoro.
Nous venons de terminer un projet avec une structure néerlandaise, Voice Mali, où on a eu à accompagner quelques femmes et jeunes dans les activités génératrices de revenus et autres activités qui pourront leur permettre quand même d'être autonomes. Au niveau du monde rural, nous avons actuellement près de 1400 personnes que nous encadrons directement et indirectement, ça doit aller jusqu'à près de 3000 personnes.
Afo Keita est un handicapé physique et chef d'un atelier de menuiserie à la base B, en commune 3 du district de Bamako. Assis au milieu de ses collègues, Afo affiche un optimisme face à la vie. Grâce à ce travail, Afo arrive à nourrir et s'occuper de sa famille malgré les difficultés.
C'est ce métier que nous avons embrassé. Ce travail est rentable. Nous parvenons à prendre en charge les frais d'études de nos enfants et soutenir certains de nos parents financièrement. Mais actuellement, les clients viennent au compte-gouttes. Malheureusement, nous, Maliens, nous consommons rarement nos produits. Acheter nos œuvres, c'est nous rendre un grand service. Nous ne commandons pas, mais nous demandons juste aux Maliens d'acheter nos produits.
Membre de l'Association malienne des personnes handicapées physiques, AMPHP, Afo Keita estime que le handicap ne doit pas être perçu comme un obstacle à la réussite. Il en appelle aux personnes vivant avec un handicap à ne pas croiser les bras.
Tout est question du mental. Lorsque vous vivez avec un handicap et que vous avez un bon état d'esprit, rien n'est perdu. Une personne en situation de handicap qui travaille pour nourrir sa famille n'a pas d'handicap. Je voudrais que des Maliennes nous prennent comme des exemples. J'invite toutes les personnes vivant avec un handicap à s'organiser en association ou à rejoindre un regroupement. Cela est un créneau d'éveil de conscience et permet de s'armer du courage.
Rappelons que 15% des Maliens vivent avec un handicap sur une population de près de 22 millions d'habitants, selon un rapport de l'OMS et de la Banque mondiale. Ce document produit en 2016 révèle que ces personnes sont dans des conditions difficiles dans le pays.